RCF. Comment Dieu intervient-il dans l'histoire ? Eh bien, on va le comprendre à travers le portrait de Moïse. En tout cas, on va essayer de saisir ce portrait. Portrait que vous avez dessiné à travers un livre qui s'appelle « Moïse, libérateur et prophète » aux éditions du Cerf dans la collection ABC de la Bible. Père Philippe Abadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Alors nous sommes avec Moïse, nous sommes en plein cœur de l'Égypte. Et puis Moïse, c'est celui qui reste dans l'imaginaire collectif, celui qui libère le peuple d'Égypte. Comment va s'effectuer cette sortie d'Égypte, au prix de quel combat ?
Oula, une bonne question. Ben, les combats seront énormes. Alors souvent, on parle des plaies d'Égypte, ce qui n'est pas exactement juste. Pourquoi ? Parce que les termes hébreux qui caractérisent cet affrontement entre le pharaon et Moïse parlent plus de signes envoyés à l'Égypte. On s'aperçoit que effectivement, on a ici deux grandeurs. On a Moïse, porteur d'une parole d'un Dieu qui veut rendre libre un peuple asservi. Et la tradition juive considère que l'esclavage a duré 450 ans, ce qui est bien sûr un chiffre symbolique. Mais d'une certaine manière, Pharaon représente l'anti-Dieu. Il se prend lui-même pour Dieu et il se rend maître de la vie. Ça commence d'ailleurs par la mort des premiers-nés des Hébreux et ça continue par son opposition à laisser partir les Hébreux. Et donc Moïse va être porteur d'un certain nombre de signes envoyés à l'Égypte au chiffre de 10. Le dernier seul, la mort des premiers-nés, s'appellera une plaie. C'est le dernier qui est appelé plaie, les autres sont plutôt des signes. En fait, c'est plutôt une manière qu'a Dieu de faire fléchir la puissance orgueilleuse de Pharaon.
Mais on aurait pu, justement, je vous interromps, parce que on aurait pu imaginer qu'après tout, Dieu donne ce pouvoir à Pharaon, que Pharaon se convertisse aussi, soit à force de fléau, soit tout simplement parce qu'il est... pas seulement l'homme puissant, mais peut-être aussi celui qui cherche quelque chose de plus grand que lui. Après tout, Pharaon aurait pu être celui qui libère son peuple.
Du tout. Dans le texte, il est très intéressant de voir qu'il y a deux Égyptes qui cohabitent finalement. Il y a une Égypte qui n'est pas hostile, qui est celle des sages-femmes, par exemple, au chapitre 1er de l'Exode.
Là, il faut nous raconter peut-être ce petit
épisode.
Ah oui,
c'est un très bel épisode. Le pharaon demande, effectivement, lorsque les enfants hébreux naissent, quand c'est un garçon, de le tuer, et quand c'est une fille, de la laisser vivre.
Parce qu'il en a assez de ce peuple qui croit, qui grandit, qui se multiplie.
Et qu'il considère comme une menace.
Ouais.
Voilà. On a vraiment l'impression, l'étranger est une menace. C'est très moderne. Donc, quand on regarde l'épisode, c'est que les sages-femmes, avec beaucoup de sagesse, disent « Écoutez, nous on arrive trop tard, parce que les femmes hébraïques ont déjà accouché. Et parce qu'elles ne sont pas du côté de la mort, mais de la vie, Dieu va leur construire des maisons, c'est-à-dire des descendances. »
Ça, c'est la première partie de l'Égypte,
oui.
Vous diriez.
Et puis, il y a aussi la fille de Pharaon aussi, qui dans le récit, n'oublions pas, alors même qu'elle sait que l'enfant qu'elle recueille dans le fleuve est un petit des Hébreux, n'obéit pas à la parole de son père. Donc il y a une Égypte qui reste bienveillante et qui empêche finalement de voir l'opposition entre deux peuples. L'Égypte opposée aux enfants des Hébreux, aux enfants d'Israël, les Hébreux. En fait, c'est deux pouvoirs qui s'affrontent. C'est un Dieu qui rend libre et quelqu'un qui se prétend Dieu, parce que Pharaon est divinisé en Égypte et qui est du côté de l'asservissement. Mais au fur et à mesure que se déroulent les signes envoyés en Égypte, on s'aperçoit que, avec beaucoup d'ironie d'ailleurs, les quatre premiers signes, les magiciens font les mêmes choses et donc quelque part ça annule. Et puis progressivement, les magiciens sont atteints par les pustules et ils sont mis en déroute et c'est eux-mêmes qui disent « mais tu es en train de tuer ton peuple ». Et d'une certaine manière, le Pharaon n'écoute ni son peuple, bienveillant, ni Dieu. Il représente la toute-puissance des empires et on peut voir derrière l'image du pharaon biblique de l'Exode, la représentation des grands empires qui, durant toute l'histoire, ont asservi Israël, l'Égypte, mais plus encore Assur et Babylone. Et donc, quelque part, c'est la puissance démoniaque des grands empires qui s'attaque à ce petit peuple de Dieu.
Et ça pose aussi la question de que suppose la conversion ?
Eh bien, elle suppose l'écoute de la pauvreté, l'écoute de la souffrance. Or, Pharaon, lui, n'est pas dans l'écoute ni de son peuple, ni de la souffrance des esclaves. Et donc, il y a une sorte de réflexion de sagesse dans le livre de l'Exode qui montre que lorsque le pouvoir politique n'est pas à l'écoute de la souffrance des victimes, n'est pas à l'écoute du cri de son propre peuple, il entraîne ce peuple vers la mort. Finalement, celui qui met à mort son peuple, celui qui met la mort dans l'Égypte, ce n'est pas le Dieu des Hébreux, mais c'est l'endurcissement du cœur du Pharaon. C'est l'endurcissement du pouvoir totalitaire qui entraîne l'Égypte dans la mort. Et ça va être même vrai jusque dans l'épisode central que vous avez en Exode chapitre 14e, qui est l'ouverture de la mer, qu'on appelle la mer des roseaux, Yam Souf en hébreu, mais la sagesse parlera de la mer rouge. On a oublié le sens de Yam Souf.
Quand vous dites la sagesse, c'est le livre de la sagesse.
Oui, bien sûr, le livre de la sagesse, excusez-moi, qui est un très beau livre qui fait une méditation. La fin de la sagesse reprend de manière très méditée l'Exode. Et là, on voit le pharaon qui ne veut pas lâcher prise et qui va dans la mer à la recherche des victimes et qui devient la propre victime de son orgueil. Mais ce qui est remarquable, c'est que regardez attentivement Exode chapitre 14e, c'est lorsque l'Égypte se sent défaite, déconfite, privée de sa puissance, qu'enfin elle reconnaît le Dieu des Hébreux, puisque Pharaon dira au milieu de la mer, alors même que les eaux se ferment sur lui, « Fuyons de devant Israël, car le Dieu d'Israël combat contre nous pour eux. » Et ce Dieu qu'il avait refusé dans la toute-puissance, il le reconnaît dans sa propre défaite.
Père Philippe Abadi, on dresse avec vous le portrait de Moïse. Moïse, on l'a vu, hein, cet envoyé divin venu délivrer Israël. On voit maintenant aussi, vous le disiez, dans ce chapitre 14 de l'Exode, ce chef, on pourrait presque dire aujourd'hui charismatique, qui va vraiment libérer le peuple hébreu. Qu'est-ce qui fait de lui un chef?
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est un charismatique, mais c'est pas un chef. Car ce qui est remarquable dans ce chapitre 14e de l'Exode, qui est donc, je le rappelle, le grand récit du passage de la mer, ce n'est pas Moïse qui conduit l'action, c'est Dieu. Ce qui est bien sûr une manière très symbolique de parler, parce que Dieu qui ouvre la mer, nous sommes ici dans un récit qui rappelle la création du monde, où lorsque Dieu ouvre les eaux, il fait émerger la création.
Il sépare.
Il sépare, et par la séparation des eaux d'en haut des eaux d'en bas, il fait naître la création, il fait naître la vie. Et c'est pareil pour le récit d'Exode 14, d'ailleurs c'est écrit par les mêmes auteurs. Ce sont les prêtres exilés du temple de Jérusalem qui écrivent ces textes, donc c'est le clergé de Jérusalem. On appelle ça le document sacerdotal. Et il est intéressant de voir que finalement, ce qui se passe, c'est la création d'un peuple qui sort d'une servitude. Au début, ils disent « Mieux vaut servir Pharaon que mourir dans le désert » pour devenir serviteur du Seigneur. Et Israël découvre dans cet épisode que ce n'est pas le passé de servitude qui est important. C'est de servir Dieu, c'est-à-dire d'honorer le Dieu qui les a rendus libres. Il y a un très beau commentaire qui est un peu ancien, il date de 1968, de Georges Aujou, qui s'appelle « De la servitude au service ». C'est exactement cela l'Exode. On passe d'une servitude d'un maître humain au service liturgique, et ça va être la construction du temple, de l'autel, qu'on va avoir à la fin de l'Exode, à partir des chapitres 35 et suivants, avec à la fin la gloire de Dieu qui envahit la tente de la rencontre, et Exode chapitre 40. Et donc, on découvre finalement que le vrai service d'Israël, c'est la liturgie, ce n'est pas l'asservissement.
Mais ça ne se fait pas sans tiraillement.
Ah ou non, parce que on a, et ça ponctue vraiment le livre de l'Exode, mais encore plus d'ailleurs quand vous allez dans le livre des Nombres, c'est que le peuple ne cesse de murmurer. C'est normal. Ils sont un peu comme nous Français. Fait trop chaud, fait trop froid. Alors, ils ont faim, ils ont soif, ils ont peur, et sans arrêt, ils hurlent contre Dieu. Et ce pauvre Moïse, eh ben, il se débat comme il peut. Et à un moment donné, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as donné à conduire ce peuple? Il y a une épreuve que subit Moïse, c'est l'épreuve de son propre peuple, mais peut-être aussi c'est une manière de dire que Moïse ne peut pas être un chef autoritaire comme l'était Pharaon et qu'il ne peut être qu'un chef à l'écoute de la souffrance de son peuple. Mais un peuple un peu râleur, faut bien l'avouer quand même.
Alors c'est un peuple râleur et c'est un peuple qui Moïse va guider à la fois presque j'allais dire sur le territoire, mais aussi un peuple qu'il va guider par des lois, par des règles qu'il reçoit.
Absolument.
Dans votre portrait, celui de Moïse, Moïse est aussi le législateur. Il est prophète, mais il est aussi législateur.
Ah, complètement. C'est-à-dire qu'à tel point d'ailleurs que le livre du Deutéronome, qui est un livre essentiellement une loi, la deuxième loi, Deutéronomos, on appelle ça Sefer HaTorah Moshe, le livre de la loi de Moïse. Et donc, d'une certaine manière, Moïse, bien sûr qu'il est libérateur, bien sûr qu'il est prophète, mais il est aussi celui qui porte la loi. Mais la loi, elle est prophétique, dans le sens où elle évite à Israël de retomber dans les ornières. Le premier commandement qui est magnifique, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a rendu libre de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » C'est Exode chapitre 20, le tout début du décalogue. Or Dieu se présente comme étant celui qui a rendu libre de la maison de servitude. Et la loi finalement nous permet de nous maintenir hors de la servitude. Dieu n'est pas quelqu'un qui va commander par la loi et asservir son peuple, mais la loi va être ce qui va permettre à Israël de rester un peuple libre. D'abord, en ne se trompant pas d'idoles, en ne servant pas les idoles, mais aussi en respectant les temps sacrés, le sabbat, qui est la mémoire de la création, dans le décalogue, et puis aussi, on pourrait dire, l'éthique sociale. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, le respect du frère. Et on s'aperçoit que finalement, la loi, elle tient entièrement, comme le dira d'ailleurs saint Paul dans l'Épître aux Galates, dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour du frère qui révèle à Israël la présence de Dieu parmi lui.
C'est pas quelque chose qui va dans le sens de ce que désire le peuple de recevoir ces lois. Qu'est-ce qui fait que Moïse va rester, malgré tout, leur leader charismatique, alors même qu'il leur donne toute une série de lois? On comprend bien que c'est la suite de la libération, c'est une continuité.
Une continuité. Oui.
Mais que fait-il avec ces murmures, avec cette hostilité réelle du peuple?
Eh bien, il se tourne vers Dieu dans la prière. Et même, il y a quelque chose, un très beau passage, moi j'aime beaucoup, à partir de Exode 32, c'est donc l'histoire du veau d'or, je l'ai déjà évoqué. Et donc, après que Israël ait construit cette idole, finalement, alors même que l'idolâtrie est condamnée par le décalogue, par les 10 commandements, Moïse se tient devant Dieu et dit, si tu élimines ce peuple, eh bien, élimine-moi aussi du livre de la vie. Quelque part, ce qui fait la grandeur de Moïse, c'est que, en dépit des murmures de son peuple, il reste solidaire de ce peuple. Et il dit même à Dieu cette phrase étonnante. Il dit, mais ce peuple que tu veux détruire, c'est ton peuple. Rappelle-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham, Isaac, Jacob. Et vous avez un magnifique verset dans lequel on vous dit, Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire. D'une certaine manière, la grandeur de Moïse et la grandeur de Dieu dans l'Exode, c'est que Moïse conduit le Seigneur à renoncer à sa colère. Et Dieu inverse finalement, il ne se présentera plus à Israël comme le Dieu jaloux, mais comme le Dieu miséricordieux qui accorde la grâce avant le châtiment.
Dieu va être, on le disait, loyal, fidèle, puisqu'on évoquait quel est le visage de Dieu, jusqu'au bout. On pourrait s'attendre à ce que Moïse, qui a justement passé les épreuves, lui aussi était fidèle à son peuple et resté avec lui, tenu entre Dieu et son peuple. On pourrait s'attendre à ce que Dieu l'emmène jusqu'à la terre promise. Ce n'est pas le cas. Moïse va être arrêté avant même de pouvoir connaître cette terre promise qu'il aperçoit.
Absolument.
Mais il n'ira pas à pied avec son peuple jusqu'à cette
Absolument.
Terre promise.
Alors,
pourquoi?
C'est très intéressant parce que vous avez deux versions dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Dans le livre des Nombres, on a cette vision que Moïse a douté. Moïse a douté à un moment donné devant la soif de son peuple. Il frappe le rocher. Dieu lui dit de frapper de son bâton le rocher et que l'eau jaillira du rocher. Or, Moïse frappe deux fois le rocher. Et donc, c'est interprété de la part du Seigneur comme le doute. Et donc,
au lieu d'une fois, c'est ça que vous voulez dire?
Au lieu de la fois, il a douté, il a frappé deux fois au lieu d'une seule fois. Et donc, il a douté de la réaction de la parole de Dieu. Et donc, ça veut dire que si Moïse est le prophète de Dieu, il ne peut pas rentrer en terre promise parce que le doute rentrerait aussi en terre promise. Et c'est la version du livre des Nombres. Moïse a douté. Une autre version que je trouve très belle, c'est celle du livre du Deutéronome, et qui est très différente. Moïse ne rentre pas en terre promise parce qu'il porte sur lui le péché de son peuple. C'est afin que le péché de son peuple ne rentre pas en terre promise. Et là, on rejoint le serviteur souffrant de Isaïe et la figure du Christ. Moïse donne sa vie afin que son peuple soit libéré de tout péché. Et c'est parce qu'il porte en lui la faute il prend sur lui la faute d'Israël, c'est pour que la faute d'Israël ne rentre pas en terre promise, qu'il meure avant la terre promise. Mais Dieu lui accorde cette grâce et cette faveur, nous sommes en Deutéronome chapitre 34e, c'est de lui faire contempler l'étendue de la terre promise. Et on vous dit ce verset magnifique, « Aucun prophète ne s'est levé plus grand que Moïse, lui avec qui Dieu parlait face à face, comme un homme parle avec un autre homme. » Dieu parle d'homme à homme avec Moïse. Ce n'est dit de nul autre dans l'Écriture, si ce n'est de Jésus-Christ. Vous voyez que la figure de Moïse, porteur du péché de son peuple sur lui, et libérant par sa propre mort son peuple du péché, à qui Dieu parle d'homme à homme, rappelle étrangement et annonce déjà prophétiquement la figure du Christ.
Alors on pourrait vous opposer que nous ne sommes malheureusement pas libérés du doute. Le doute, Josué va entrer dans cette terre et le doute sera là malgré tout avec le peuple dans ce pays de ruisselant de lait et de miel.
Josué finalement est une figure modèle, c'est-à-dire que Josué, il est celui qui n'a jamais douté du Seigneur. C'est après dans le livre des Juges qui suit qu'il y a la révolte et le doute. Mais Josué, c'est l'accomplissement. Et d'ailleurs, vous avez dans le livre de Josué quelque chose d'extraordinaire. Au tout début du livre de Josué, on vous dit Josué succéda à Moïse. Josué, le serviteur de Moïse, lui succéda. À la fin du livre, on dit Josué, le serviteur du Seigneur. C'est-à-dire que tout le livre de Josué, c'est comment on passe de serviteur d'un homme à serviteur de Dieu. C'est par la fidélité et l'obéissance. C'est avec le livre des Juges qui fait suite à Josué que effectivement on a un schéma récurrent. Le peuple se révolte, se détourne de Dieu. Dieu lui envoie un adversaire. Le peuple crie vers Dieu et Dieu lui envoie un sauveur. Et c'est malheureusement toute l'histoire du livre des Juges. Et après, il faudra attendre David pour que effectivement il y ait plus d'ordre qui arrive. Mais d'une certaine manière, Josué est la face positive de Moïse. Et c'est pourquoi il peut donner la terre à Israël.
Qu'est-ce que nous comprenons de l'alliance de Dieu et des hommes à travers la figure de Moïse ?
Eh bien, cette alliance, elle passe d'abord par l'écoute et par la fidélité. Dans le livre du Deutéronome, qui est une série de quatre grands discours attribués à Moïse, au chapitre 31e du Deutéronome, Moïse demande qu'on lise chaque année la Torah. On s'imprègne de la parole de Dieu. Et c'est très important, d'ailleurs c'est une des traditions importantes dans Israël. Vous savez que les Juifs portent, les Juifs pieux, les orthodoxes, ils portent des phylactères et notamment il y a un petit écrin qu'ils ont en cuir portant des paroles de la Torah qu'ils portent sur le front, c'est-à-dire dans leur intelligence, et l'intelligence étant ici le lieu de l'action, qu'ils portent sur leur bouche et sur leur cœur. Ce qui fait le geste du croyant qui signe le front, les lèvres et le cœur. Et quelque part, vous avez dans un magnifique texte du Deutéronome, c'est Deutéronome chapitre 6e, on peut le lire d'ailleurs parce que c'est la confession de foi d'Israël, je vous lis. Et là, vous allez voir l'importance finalement de la Torah en Deutéronome chapitre 6. C'est, on pourrait dire, le credo d'Israël que tout juif religieux et pieux lit. Je vous lis donc ce petit passage, mais que les auditeurs connaissent sans doute. Nous sommes au chapitre 6 du Deutéronome, c'est au verset 4 à 9. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à ton fils, tu les leur diras quand il entrera chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout, tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu l'inscriras dans les montants de tes portes et à l'entrée de la ville. Vous voyez, ce qui maintient et qui fait vivre Israël, c'est la fidélité à la loi, à la Torah, à la parole de Moïse. Et j'ai envie de dire, c'est exactement de cela que vit le croyant juif aujourd'hui. Puisque la tradition juive nous dit que la synagogue hérite de la parole donnée à Moïse au Sinaï. Et finalement, elle l'actualise toujours, même quand la parole des rabbins est différente de la parole de la Torah. Il y a un très très beau texte dans le Talmud étant le grand livre qui régit le judaïsme, dit tout le temps, Moïse, il entend au ciel, on dit la loi de Moïse. Alors, il a envie de savoir ce qu'il a dit quand même, qu'on lui fait dire. Il descend sur terre, incognito, et il se met dans le fond de la synagogue, et on dit la loi de Moïse. Et puis, le rabbin parle, mais Moïse, il dit, mais j'ai jamais dit ça, il comprend rien à ce qu'on lui fait dire. Mais à la fin, on dit, c'est ainsi que parlait Moïse. Ah, très bien, dit Moïse. Ben, si c'est comme ça que j'ai parlé, j'ai parlé. Donc, quelque part, ça veut dire que la loi orale, la Torah orale, qui se développe dans le judaïsme, bien après, bien sûr, l'écriture, vous avez la loi écrite, qui est la Torah Kitav, la loi écrite, c'est notre Bible, et la Torah Shebealpé, la loi orale, qui est l'interprétation, eh bien, les rabbins ont conscience de rentrer dans la parole de Moïse qu'ils interprètent. Comme les chrétiens, dans l'Esprit Saint, ont conscience de rentrer dans la parole de Jésus qu'ils interprètent. Et c'est là où Moïse, finalement, devient le grand modèle du prophète, y compris aujourd'hui dans le monde juif, mais annonciateur de Jésus. Et j'aime à dire aux auditeurs que lors de la transfiguration, quand pour la première fois Jésus apparaît ressuscité, après avoir annoncé aux apôtres la passion, à ses côtés, il y a Moïse d'un côté et Élie de l'autre, les deux grandes paroles qui interprètent.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut essayer de saisir du Christ, qu'est-ce qui nous est annoncé à travers la figure de Moïse, Père Philippe Abadi ?
Moïse est celui qui a vu Dieu, mais comme le dira saint Paul, il a vu à travers un voile. C'est-à-dire qu'il l'a vu, il a vu Dieu, il a parlé à Dieu, il a compris Dieu à travers un voile. Et ce voile est totalement révélé et dévoilé avec Jésus. C'est le sens symbolique magnifique de... vous savez, dans les récits de la Passion, notamment dans Marc, Luc et Matthieu, au moment de la Passion, de la mort de Jésus, le rideau se déchire, du temple se déchire. C'est-à-dire que quelque part, la lumière, le voile opaque se déchire. Eh bien, saint Paul nous dit finalement, Jésus accomplit totalement la loi de Moïse, d'ailleurs Jésus dira lui-même qu'il n'est pas venu détruire la loi, mais l'accomplir, Matthieu chapitre 5e, et donc on voit bien que pour le Nouveau Testament, Moïse est l'annonciateur et Jésus est le révélateur suprême. Il est celui qui porte à son achèvement la parole de Moïse et qui la dépasse profondément. C'est pourquoi on vous dit à la fin du prologue de saint Jean que Moïse a dit la parole, mais que le Verbe de Dieu était en Dieu et il a vu Dieu, lui, face à face. Et c'est pourquoi il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus, finalement, il est le grand accomplissement de la parole portée par Moïse, parce qu'il est la présence même du Verbe divin dans le monde.
Oui, parce que j'allais vous dire tout à l'heure, vous avez évoqué Moïse comme portant les péchés du peuple et puis mourant pour laisser justement ce peuple être libéré.
Dans le Deutéronome, oui, tout à fait.
Dans le Deutéronome. Avec le Christ, c'est une toute autre dimension, puisque le Christ est Dieu présent sur terre.
Bien sûr, et tout à fait. Alors, ça répond aussi à une de vos questions, et il est important, c'est que le corps de Moïse ne peut pas rentrer en terre promise, parce qu'il ne peut appartenir qu'au désert. Ce qui entre en terre promise, c'est la parole de Dieu portée par Moïse et qui porte Israël. Et pour les chrétiens, c'est l'Église qui porte la parole de Jésus, bien sûr. Et d'une certaine manière, Moïse ne peut que mourir hors de la terre promise quand lui est le ressuscité.
Parce que, qui meurt au milieu des siens.
Absolument. Mmh. Et bien sûr qu'il y a une différence fondamentale, pour le chrétien en tout cas, entre la figure de Moïse et celle de Jésus. L'une étant vraiment créature, l'autre étant fils de Dieu incarné. C'est évident. Mais on voit bien que Moïse est quelqu'un qui nous conduit vers le Christ. Et il serait dommage que les chrétiens enferment Moïse dans l'Ancien Testament, sans voir que notamment... les évangiles, à des moments clés de leur histoire, je pense bien sûr à la transfiguration, mais aussi je pense également...
La transfiguration, donc, c'est le Christ qui apparaît.
Le Christ qui apparaît, lumineux et qui apparaît comme ressuscité, alors même qu'il vient de dire sa propre mort. Il vient d'annoncer la première annonce de la Passion.
Il apparaît aux côtés de Moïse et Élie.
Et les disciples contemplent cette vision qui est déjà une anticipation de la résurrection.
Deuxième passage peut-être dans l'évangile.
Et le deuxième passage, c'est regarder dans l'évangile de saint Matthieu. Quand on vous dit que Jésus, sur une haute montagne, dit sa parole, c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Or, ça commence par les béatitudes. Or, Jésus, il est sur la haute montagne. Prenez, quand vous êtes en Israël, des hautes montagnes, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, symboliquement, lorsqu'on dit Matthieu, lorsqu'il nous dit qu'il est sur la haute montagne, c'est le Sinaï. Et quelque part, Jésus, il va, par les béatitudes, dépasser la loi, la Torah, les commandements. Et on a d'ailleurs, à la fin du récit, il est conduit sur la montagne, et là, il les envoie, c'est Matthieu 28, il les envoie annoncer et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la lecture que nous avons faite pour le dimanche de la Trinité. Or, c'est remarquable, cette haute montagne que vous avez dans saint Matthieu, d'où émerge à la fois la parole de Jésus, on vous a dit, moi je vous dis, et qui réinterprète la Torah mosaïque, ça c'est Matthieu 5 à 7, et la haute montagne de l'annonce évangélique à toutes les nations, et la reprise bien sûr par l'évangile de la figure de Moïse, mais à travers son dépassement en Christ.
Un dernier mot pour terminer ce portrait de Moïse, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour notre communauté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que nous avons à vivre en communauté à travers la figure de Moïse ?
Eh bien, je dirais, c'est à la fois l'humilité, et on vous dit qu'il y a un très beau verset également, c'est dans le livre des Nombres, on vous dit que Moïse était l'homme le plus humble qui s'est élevé sur terre. Il est celui qui voit Dieu, avec qui Dieu parle face à face, il reste humble. Et je dirais, ce que je garde de Moïse, c'est son infinie humilité.
Merci Père Philippe Abadi, auteur du livre « Moïse, libérateur et prophète » aux éditions du Cerf dans la collection ABC de la Bible. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Et pour ceux qui voudraient replonger dans l'Ancien Testament et cette histoire, mais pas seulement ce souffle captivant de Moïse, c'est dans le livre de l'Exode essentiellement. Et puis on l'a cité au cours de cette émission aussi, le Deutéronome. Bonne lecture à tous. Et à la semaine prochaine.